à venir.
VOA Afrique, les infos à Washington.
Il est 15h à Washington, d'ici 7h en temps universel. Eric Manila Kidza avec vous. Bienvenue dans ce bulletin d'information. Les législateurs somaliens ont commencé dimanche à voter pour désigner le prochain président du pays parmi 36 candidats. Les députés et sénateurs votent sous une tente dressée dans le périmètre de l'aéroport sous haute sécurité de Mogadiscio. La capitale a été placée sous couvre-feu, interdisant toute activité publique. Les vols d'avions ont également été annulés, a indiqué une source officielle à l'AFP. Le scrutin a déjà pris plus d'un an de retard. Le vice-président kényan William Ruto a choisi dimanche un ancien assistant devenu un critique féroce du président Uhuru Kenyatta pour être son colistier lors de la prochaine présidentielle prévue en août. Rigathi Gachagua a été l'assistant personnel du président Kenyatta entre 2001 et 2006. Il fait toutefois l'objet d'accusations de corruption dans une affaire en cours. Le Zimbabwe s'est défendu d'avoir abrité le fugitif rwandais le plus recherché, Protais Mirania, après l'annonce jeudi par l'ONU qu'il était mort dans ce pays en 2006. Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères publié dimanche, Harare souhaite clarifier qu'il a rempli toutes ses obligations en vertu du droit international en collaborant avec les enquêteurs de l'ONU qui traquent les fugitifs du génocide rwandais. 44 ex-casquets bleus, originaires du Tigré, région du nord de l'Éthiopie, en proie à une guerre meurtrière, sont arrivés dans l'est du Soudan après y avoir demandé l'asile. Dimanche, un membre de l'agence soudanaise pour les réfugiés a confirmé qu'au terme de leur mission onusienne, plusieurs centaines de militaires éthiopiens ont déposé des demandes d'asile dans son pays. Plus de 2000 personnes ont participé dimanche en Tunisie à la première manifestation organisée par le Front de Salut National, récemment formé par 5 partis opposés au président Kais Saied, notamment celui d'En Hadda. Les manifestants se sont rassemblés devant le théâtre municipal sur l'avenue Bourguiba, l'artère principale de Tunis. Ils réclament le respect de la Constitution et le retour à la démocratie. Un ancien responsable militaire et homme de confiance de l'ancien chef d'état-major de l'armée algérienne a été condamné à la peine capitale pour notamment divulgation d'informations confidentielles, rapporté dimanche le quotidien francophone et Watan. L'adjudant-chef Germit Bournouia est aussi accusé de violation de l'obligation de réserve dans le but de porter atteinte à la sécurité et aux intérêts de l'État, d'après la même source. Le président sénégalais Macky Sall et président en exercice de l'Union africaine appellent à la création d'une agence de notation financière africaine face aux évaluations parfois très arbitraires des agences internationales qui exagèrent le risque d'investissement en Afrique, ce qui renchérit le coût du crédit. Monsieur Sall s'est exprimé samedi lors de la conférence économique Dakar 2022 organisée par des économistes africains sur le thème « L'Afrique partenaire leader ».
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Les habitants de la ville de Buffalo, dans l'État de New York, ont rendu hommage dimanche aux 10 personnes tuées la veille dans un supermarché, dont une majorité d'Africains américains, par un homme blanc lors d'une fusillade. La justice fédérale américaine enquête sur ce massacre en tant que crime motivé par la haine et une affaire d'extrémisme violent à motivation raciale, selon un communiqué diffusé samedi soir. Les pays de l'OTAN continueront à aider militairement l'Ukraine, toujours sous la pression des bombardements russes, a assuré Berlin dimanche, alors que la Finlande a annoncé une candidature historique à l'Alliance Atlantique. En Suède, le parti au pouvoir a approuvé cette adhésion. Cette candidature et celle de la Suède sont la preuve qu'une agression ne paie pas, a réagi dimanche le secrétaire général de l'Alliance, Jens Stoltenberg, assurant que l'OTAN est prête à renforcer les garanties de sécurité pour ces deux pays. Les Libanais ont voté dimanche pour choisir leurs députés, un premier test pour les candidats indépendants et groupes d'opposition ayant émergé à la suite d'un soulèvement populaire déclenché en octobre 2019 pour exiger le départ d'une classe politique accusée de corruption et d'incompétence.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Et tout de suite, un programme en rediffusion sur VOA Afrique. Foi et tradition.
Vérité et doctrine.
Le dialogue des religions.
Sur la voie de l'Amérique. Bonsoir madame, bonsoir messieurs, bienvenue dans ce dialogue des religions. Eric Manela Kiza avec vous au micro. Celui qui traite sa femme de la meilleure façon fait partie des meilleurs musulmans et souvent cité pour justifier du respect dont la femme jouit, mais de nombreux versets du Coran vont dans un sens différent. Voilà la femme dans le Coran. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 12, car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. Nous parlons de la place de la femme dans la religion ou dans les religions, tout de suite avec nos invités. Ce soir, nous recevons Kazimbaya Shamsi, elle est au Rwanda. Madame Shamsi, bonsoir.
Bonsoir Eric.
Vous êtes croyante et musulmane, n'est-ce pas?
Oui, je suis femme musulmane, croyante et pratiquante.
Et pratiquante. Vous êtes une des leaders de la société, n'est-ce pas?
Oui.
Comment vous exercez votre leadership face à la religion?
Comment j'exerce mon leadership par rapport à la religion? Je veux dire que, oui, c'est vrai, je suis une femme musulmane, croyante, pratiquante, mais en même temps une femme fondée. Et donc, il y a les deux aspects, il y a l'aspect religieux, mais aussi l'aspect culturel et traditionnel. Mais ce que je peux dire, c'est que comment j'exerce ma position, c'est que moi, en tant que croyante, même si je ne suis pas, j'ai pas fait une étude coranique, mais je connais très bien ma religion, je connais très bien ma place, je connais très bien les droits et les obligations. Et donc là, je le sais, j'exerce mes droits, ma position, indépendamment de ce que pense la société, ce que pense la tradition. Évidemment, c'est une contrainte, parce que quelque part, et puis, il faut d'abord dire que bon, on ne peut pas différencier dans une société pareille au Rwanda ou même ailleurs, on ne peut pas différencier la religion et la tradition. Et des fois, il y a un conflit entre les deux. Alors, c'est pour vous dire que la façon dont je me positionne, c'est par rapport à mes droits en tant que Rwandais, mais aussi à mes droits en tant que femme musulmane. Quand bien même, c'est pas toujours le cas que la société reconnaisse ma place et ma position en tant que musulmane, surtout vivant dans un pays qui n'est pas un pays musulman, qui n'est pas guidé par les droits ou les lois coraniques. Donc c'est un peu compliqué, c'est un peu challenging. Mais si je peux dire, donc moi personnellement, je me positionne selon mes croyances, selon mes droits, tels que je les conçois, tels que je crois. Pas. Voilà.
Donc vous pouvez exercer librement votre droit de parole au sein de votre confession religieuse.
Oui, absolument. Mais comme je le disais tantôt, donc il y a ce conflit-là entre la religion et la culture. Et quand je parle de ça, c'est de dire, parce que c'est pas seulement au Rwanda, mais un peu partout ailleurs, il y a un grand problème que je vois d'interprétation des aspects coraniques et de la place même de la femme dans la société. Et donc c'est ce qui crée un peu le conflit. Donc il y a ces droits-là, parce que dans la plupart des versets coraniques, c'est pas tout. On croit que la femme musulmane a un statut qui la respecte et qui l'honore tant sur le plan spirituel que sur le plan social. Mais là, il y a un problème d'interprétation civile. Encore une fois, ça va être un problème dans l'histoire. Et quand on parle de l'interprétation, que ce soit pour la religion, les humains ou les autres religions, ces interprètes-là, ou ces gens-là qui interprètent les versets coraniques, les versets bibliques, ou les autres religions, c'est souvent les hommes. Les hommes qui ont été éduqués, qui ont grandi dans des sociétés qui sont, pour la plupart des cas, des sociétés patriarcales. Et donc, du coup, l'interprétation devient aussi plus ou moins biaisée. Et donc, du coup, ça crée un peu le déséquilibre ou cette inégalité-là. Et ces versets qui donnent ce statut privilégié à la femme ne sont pas interprétés tels que. Et donc, ça demande beaucoup de courage, ça demande beaucoup de connaissances, ça demande beaucoup de awareness pour pouvoir vraiment se positionner dans cette position que le Coran nous octroie. Mais évidemment, étant encore dans un pays qui n'est pas musulman, c'est pas toujours évident.
Existe-t-elle une plateforme quelconque en
entre femmes pour discuter de toutes ces questions.
Oui, mais parce que nous, au Rwanda, il y a des clubs, ou ces plateformes-là, mais qui sont vraiment informelles, où on en discute. Mais effectivement, comme je le disais, donc, pour que ça puisse avoir de l'impact, il faut que ce que je peux dire, c'est cher ou c'est bien, soit aussi impliqué. On vient donc un peu de ce combat-là pour que ces mêmes leaders religieux soient d'accord de participer à ce genre de clubs, à ce genre de forums ou à ce genre de plateformes. Et donc, juste que là, ça reste informé, mais avec le temps, qu'à un certain moment, on va déjà un peu où on va pouvoir vraiment faire avancer l'agenda et aussi impliquer ces leaders religieux et aussi avoir des femmes, parce que ça aussi le gap qu'il y a. Avoir des femmes musulmanes qui étudient aussi le Coran, qui étudient aussi la religion et qui comprennent. Parce que des fois, dans ces forums, on utilise ces plateformes, il y a ces femmes, les autres, qui parlent, qui voulant défendre la cause, mais qui n'ont pas les connaissances et les informations nécessaires pour les.
Vous êtes musulmane, mais vous avez des amies chrétiennes. Est-ce qu'elles rencontrent les mêmes inégalités ou ça va mieux chez les chrétiens? Est-ce que vous en parlez?
Alors, moi, je dirais que, donc, je reviens chaque fois à cette comparaison entre la religion et la société ou la tradition. Je dirais que le problème est plus ou moins qu'on a chez toutes les femmes, mais à quelques différences près. Donc, je dirais que ça se sent beaucoup plus chez les femmes musulmanes, parce que nous sommes dans un pays qui n'est pas musulman et dans une communauté minoritaire. Mais sinon, de façon générale, je dis que toutes les femmes font face au même problème quand ça vient à la question de se positionner, de faire avancer ses droits, ainsi de suite. Évidemment, j'ai des amis chrétiennes, des amis qui ne sont pas musulmans, et je pense qu'on partage beaucoup de problèmes relatifs au positionnement de la femme dans ses droits, dans tout ce qui est développement du pays, et là,
donc aujourd'hui, la femme au Rwanda, sa place dans la religion, n'est considérée comme seulement apte à procréer et qu'elle doit être soumise à son mari.
Oui, justement, c'est ça la compréhension ou l'interprétation biaisée de la plupart des gens. Mais on a encore aujourd'hui que ça a beaucoup avancé, il y a beaucoup de changements. Mais si oui, justement, c'était ça. Donc, on regardait la femme dans la seule petite fenêtre de reproduction, effectivement. Mais maintenant, on comprend que la femme a ses rôles et ses capacités aussi de participer au développement du pays, en participant aux activités, non seulement reproductives, mais aussi productives et aussi sociales. Et on le voit très généralement. On a fait le bel exemple qu'on puisse donner. Mais sinon, il y a encore ces hommes-là, et même certaines femmes, qui restent avec les mêmes compréhensions. Mais encore une fois, c'est le dire, le changement qu'elles constituent. Et plus on se positionne en tant que femme, plus on étudie, plus on se renseigne, on s'informe, plus on connaît ses droits, plus ça devient plus facile aussi à changer les choses.
Madame Shamsi Kazimbaya, merci beaucoup pour votre contribution dans ce dialogue des religions.
Merci.
Excellente soirée.
À toi aussi, merci. Bye.
Nous sommes dans le dialogue des religions. Notre invité au Cameroun, Marie-Jeanne Abega. Marie-Jeanne, bonsoir.
Bonsoir à vous.
Vous êtes croyante, vous êtes catholique, n'est-ce pas?
Je suis chrétienne.
Vous êtes chrétienne.
D'une orthodoxie. Oui, je suis chrétienne, d'une orthodoxie, pas catholique.
Dans l'émission de ce soir, on parle de la place de la femme dans les religions. Vous êtes chrétienne. Est-ce que vous sentez que vous avez votre place dans la religion dans laquelle vous pratiquez?
Je pense que j'ai vraiment de la place parce que lorsque nous regardons dans les assemblées chrétiennes, la plupart des mouvements sont, n'est-ce pas, occupés par la gente féminine. Les mouvements des femmes, ce sont ceux qui animent les églises, dans toutes les religions d'ailleurs. Les religions chrétiennes, je veux dire, il y a des mouvements des femmes qui les animent, elles sont très actives, c'est elles qui arrangent les églises, c'est elles qui organisent les réceptions, c'est elles qui font de la décoration, c'est elles qui organisent, n'est-ce pas, les randonnées de prières. Donc moi, je crois qu'en tant que femme, ma place est bel et bien au sein de l'Église et je peux le regretter. Je crois que beaucoup de femmes diraient la même chose.
Est-ce que c'est une place que l'Église vous a accordée ou il y a eu votre engagement personnel pour mériter cette place et l'occuper?
L'engagement personnel joue un grand rôle parce qu'on ne peut pas aller chercher une personne au cas qui ne mérite pas déjà la haute de l'Église pour lui attribuer des responsabilités au sein de l'Église. Donc, il faut s'affirmer par son engagement chrétien, par la présence, par l'activité qu'on mène au sein de l'Église. C'est ça qui fait en sorte que les dirigeants de l'Église portent leur attention sur vous et vous confient des responsabilités au sein de l'Église.
Au niveau de l'organisation du leadership de votre Église, est-ce que des textes, par exemple, accordent à la femme la place qu'il faut au niveau de la prise des décisions et de l'organisation de l'Église?
Bien évidemment, l'Église baptiste à laquelle j'appartiens a des textes qui sont favorables et qui intègrent les mouvements des femmes et qui intègrent les femmes dans la prise des décisions. Il y a des conseils, des assemblées d'église, des conventions, des dirigeants de l'église. Il y a beaucoup de ministères qui sont dans les églises et qui sont dirigés par les femmes. Le diaconat, par exemple, est dirigé par les femmes. Donc, l'église à laquelle j'appartiens, la congrégation à laquelle j'appartiens, met la femme dans le cercle des décisions. Elle n'est pas reléguée au second plan pour subir les décisions qui sont prises par d'autres, mais elle y participe, elle y contribue activement.
Est-ce qu'il y a ce genre de débat au niveau de votre église, par exemple, pour voir non seulement la femme, mais aussi permettre à toutes les catégories de s'y retrouver et de se sentir concernées, impliquées dans les activités de l'Église?
Oui, bien évidemment. Il y a des rassemblements, des réunions qui sont organisées à l'intention de la femme pour parler du leadership féminin au sein de l'Église, pour éduquer la femme au leadership au sein de sa famille, pour amener la femme à bien se comporter, à corriger des comportements négatifs. Donc il y a des conférences qui sont organisées à l'intention de la femme, notamment pour, n'est-ce pas, réorienter son activité, son moral, pour la modeler selon les saintes écritures. Donc, je crois que c'est une partie très active. Déjà, l'église à laquelle j'appartiens, chaque mercredi, il y a une rencontre des femmes pour le partage des expériences. Il y a des voyages dans d'autres assemblées pour partager les expériences, pour organiser, n'est-ce pas, les nuits de prière, les journées de méditation, les journées d'éducation de la femme, parler du leadership chrétien, amener la femme à, n'est-ce pas, à s'autonomiser. On en parle au sein de l'église. Donc, il y a beaucoup d'activités qui sont organisées tout autour de la femme parce que l'église a compris que si la femme est autonome, si la femme est bien éduquée, l'église va bien fonctionner.
Par exemple, le jour du 8 mars, la journée internationale dédiée à la femme, y a-t-il eu une activité particulière au sein de votre église?
Oui, l'activité n'a pas seulement attendu le 8 mars. Il y a eu toute une semaine d'intenses activités, de causeries éducatives, les kermesses, les sketchs, les soirées récréatives à l'intention de la femme. Et l'apothéose a été le jour de la célébration de la femme de la fête du 8 mars avec une grande fête à l'église. Les femmes sont allées au défilé et après le défilé, il y a eu des attrapés à l'église à l'intention de la femme pour clôturer notamment la journée. Parce qu'on attend pas seulement la journée, mais il faut réfléchir. Qu'est-ce que le thème a apporté? Qu'est-ce que le thème va apporter comme changement dans la vie de la femme? C'est ça l'appréhension de la fête du 8 mars au sein de ma congrégation.
Si vous observez ce qui se passe ailleurs dans d'autres professions religieuses, est-ce que vous sentez la même préoccupation ou vous voyez la même considération que vous accordez à la femme au sein de votre église?
Chaque congrégation a ses principes. Il y a des congrégations où on pense que lorsque les femmes vont à la fête du 8 mars ou alors elles organisent une réflexion autour du thème du 8 mars, elles sont mondaines. C'est une appréciation de certaines congrégations et ça c'est leur façon de voir. Mais dans la mienne, ce n'est pas appréhendé de cette manière. Nous, on pense que nous vivons dans une société et que nous devons être, n'est-ce pas, nous devons orienter la réflexion au sein de l'Église sur la base de la société à laquelle nous vivons pour justement ne pas être marginalisés ou alors nous marginaliser nous-mêmes et prestiger plutôt ce que les gouvernants recherchent. Donc, les femmes au sein de l'Église organisent leur leadership et peuvent aussi présenter des plaidoyers. Parce que lorsque nous organisons ces causeries d'éducation au sein de ma congrégation, il y a des rapports qui sont consignés dans des registres et les dirigeants de l'Église, lorsqu'ils vont représenter la communauté chrétienne quelque part, présentent, n'est-ce pas, des activités, le rapport d'activité, et ce rapport d'activité inclut justement ce que les femmes de l'Église ont eu à faire d'une période à une autre.
Au niveau du leadership, effectivement, est-ce qu'une femme peut jouer un rôle occupé par un homme et vice-versa?
Dans ma congrégation, l'église principale au Cameroun est dirigée par une femme. L'église centrale de notre congrégation est dirigée par une femme. Ça veut dire que sous-état est l'église centrale. Ça veut dire qu'il n'y a pas de domaine réservé exclusivement aux hommes. Nous faisons la même école pastorale. Les femmes sont nommées responsables des assemblées. Elles prêchent à l'église. Elles éduquent, elles participent aux conférences, elles organisent les conférences. Il n'y a pas de chasse gardée. Parce que, justement, au sein de ma congrégation, on prend l'égalité. Et on pense qu'on ne peut pas faire l'égalité en privilégiant les restrictions qui tendent à marginaliser la femme, comme, à la traiter, n'est-ce pas, comme une sous-personne. Plutôt, nous pensons dans notre église qu'on devrait mettre tout le monde au même niveau parce que tout le monde a une réception et tout le monde a sa partition à jouer et une pierre à apporter à l'édifice pour que l'œuvre de Dieu au sein de notre congrégation aille plus loin, qu'elle soit plus prêchée. Parce que nous nous basons justement sur le fait que les premières personnes qui ont à prêcher la bonne nouvelle de la résurrection de Christ, c'était les femmes. C'est elles qui sont allées pour aller oindre le corps de Christ dans le tombeau. Et c'est à elle que l'ange est apparu pour leur dire qu'il n'est plus là, il est ressuscité. Et ce sont les femmes qui ont prêché la première bonne nouvelle. Donc on se base sur ce concept-là pour penser que les femmes sont des bonnes évangélistes et qu'elles devraient porter le flambeau de l'évangélisation plus haut et à travers le monde.
Marie-Jeanne Abega, merci beaucoup de votre contribution dans ce dialogue des religions et d'avoir partagé avec nous, avec nos auditeurs, la place de la femme au niveau de votre église.
Merci pour la confiance.
L'émission, c'est le dialogue des religions. Nous sommes en ligne avec Frida Darmani qui se trouve à Tunis, en Tunisie. Frida, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez été à l'école des sœurs, vous êtes musulmane et vous avez côtoyé plusieurs religions, n'est-ce pas?
Tout à fait. Dans les années 60-70, c'était le contexte dans lequel on vivait. C'était peut-être à l'aigle de la colonisation, quoique pas forcément, mais la population, la communauté juive en Tunisie était implantée depuis déjà à l'époque où ils ont fui le temple, à la chute du temple de Salomon. Donc il y a toute une histoire avec les autres religions. La communauté orthodoxe sur l'île de Djerba existe depuis pratiquement une dizaine de siècles. C'est-à-dire que voilà, on a toute cette histoire et puis bon, il y a les musulmans, c'est-à-dire à l'origine de ce pays, on était des berbères, mais on s'est adapté en fonction des différents occupants. Et aujourd'hui, la population musulmane est prépondérante. Mais seulement, des gens comme moi, dans ma génération, nous avons eu tout ce parcours. Moi, je connais les règles, les 10 commandements et les règles de la religion catholique. J'ai été très souvent à la messe. Pour moi, on a vécu dans une espèce de mélange, une espèce de communauté d'idées et d'apaisement. Voilà, c'était ce côté de religieux qu'on percevait de la religion. Aujourd'hui, c'est peut-être très différent. Il y a eu d'autres virages, il y a eu d'autres choses qui sont entrées dans l'histoire du monde et à l'intérieur qui ont fait que bon, on n'a peut-être plus la même perception et on est dans un autre temps où la question religieuse devient de beaucoup plus aiguë.
Nous parlons ce soir de la place de la femme dans la religion. Quelle est la place de la femme tunisienne dans les différentes religions, Frida?
Alors, jusque dans les années 70, elles sont toutes d'accord plus ou moins pour que ce n'est pas uniquement la femme tunisienne. Par exemple, rien ne différencie une femme tunisienne des années 60-70 ou même avant d'une femme en Sicile ou d'une femme en Espagne. Elles ont toutes la tête couverte, les autres s'habillent en noir, nous on s'habille ici en couleur claire à cause de la chaleur, mais bon, on avait le même mode de vie. Elles étaient toutes dépendantes d'un pater familias, c'est lui qui régentait la famille. On reprenait le modèle classique et traditionnel de toutes ces sociétés ancestrales. Aujourd'hui, ça n'est plus du tout le cas. Nous, on a eu une chance pas possible en Tunisie, incroyable, c'est d'avoir eu un leader qui est Habib Bourguiba, qui a été donc celui qui a conduit la lutte pour l'indépendance avec toute une série de compagnons. Et cette génération-là, ces hommes-là, ont voulu prendre une décision politique avant même que ne soit instaurée l'indépendance, c'est-à-dire dès la fin de l'occupation française. Ils ont produit le code du statut personnel qui donne à la femme exactement les mêmes droits et les mêmes devoirs que son homologue masculin. L'unique chapitre sur lequel nous n'avons pas les mêmes droits, et ça c'est un point sur lequel Bourguiba n'est pas arrivé à faire changer d'avis ou avoir un avis positif de la part des représentants des différents courants de l'islam, c'est la question de l'héritage. Pour tout le reste, la femme tunisienne est exactement égale à l'homme, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a à la faculté autant de jeunes filles ou de jeunes femmes qui étudient que de jeunes gens. Elles sont d'ailleurs beaucoup plus appréciées sur le marché professionnel, etc. Moi, personnellement, j'ai eu une grand-mère qui a été la première tunisienne à avoir son certificat d'études, c'était en 1925. Ma mère a été la première licenciée en droit en Tunisie. C'était dans les années 50 et on continue, il y a une espèce de France. La liberté, c'est ce que j'ai appris aussi à ma fille, se prend. On n'attend pas qu'elle nous soit octroyée. Et c'est ce qui s'est passé autour de moi et à travers même mon histoire personnelle.
Et au niveau du leadership religieux, est-ce qu'on voit la femme au devant de la scène?
Ah, pas du tout, pas du tout. Quelque part, le problème, c'est qu'en Tunisie, il n'y a pas, en Tunisie, dans le monde musulman, il n'y a pas de clergé. Donc dire qu'il y a un leadership, c'est un peu difficile à définir. Mais par contre, on a effectivement non pas des chefs religieux, mais des gens dont on reconnaît la sagesse, la science ou leur ouverture sur la pensée en islam, etc. Mais ces gens-là sont soit des imams, etc., mais leur champ d'action, ça va être au niveau de leur mosquée, s'ils sont des chirs, c'est-à-dire s'ils conduisent les prières, s'ils font les prêches, etc. Ou alors ce sont des érudits, et donc c'est à travers leurs écrits, que ce soit dans les médias ou des écrits qu'ils peuvent éditer, qu'on perçoit leur pensée ou l'évolution de leur pensée. Et c'est ça qui fait une très très grande différence par rapport aux autres religions monothéistes.
Comment la religion a-t-elle développé le féminisme, par exemple, chez vous ?
Tout est dans ce qu'on appelle l'interprétation des textes. La religion n'a jamais été, contrairement à ce qu'on pense, contrairement à des visions très rétrogrades, n'a jamais enlever de sa liberté aux femmes. Il ne faut pas oublier. Il y a un exemple auquel personne ne songe, mais qui est quand même très parlant. La première femme du prophète, Saïd Khadija, était une femme qui travaillait, qui avait sa propre entreprise, qui était veuve, qui menait ce qu'on appelle sa barque toute seule. Quand elle l'a rencontré, elle est devenue sa femme ou il est devenu son époux, mais c'était pratiquement à pied d'égalité. C'est elle qui, justement, l'a aidé, a fait de lui qu'il est devenu un commerçant, un caravanier, etc. Et qui aussi, donc par ce biais, l'a ouvert au monde et aux échanges et à la rencontre des gens et peut-être à favoriser, je ne sais pas, quelque chose dans ce que va devenir Sayyid Muhammad en tant que prophète. Donc voilà, le prophète aussi a toujours vécu entouré de femmes. Alors certaines alliances ont été certes suscitées par des raisons politiques, mais il a surtout été très très à l'écoute de ce qu'elles pouvaient dire ou penser de leur environnement, de la façon de vivre, de la façon de faire. Et même pour un truc aussi simple, c'est-à-dire que dans toute sa vie privée, le prophète a vécu dans cet entourage-là. D'ailleurs même, le prophète, après sa mort, voulait être enterré dans la maison de Sayyidat Aïcha, qui était sa dernière épouse. Donc voilà, c'est tout une symbolique. Il aurait pu vouloir être enterré avec des tas d'autres honneurs, avec un monument, etc. C'est pas du tout ça. Il suffit de savoir lire le Coran. Le Coran n'a jamais été liberticide, au contraire. Mais il y a effectivement les hadiths, c'est-à-dire tout ce qu'il y a pu se dire autour du Coran, des choses qui ont été répertoriées, parfois même il y a eu des rajouts, des choses comme ça, qui ont fait que selon les périodes, selon les contextes historiques, selon d'où la provenance de ces analyses du Coran, les textes sont devenus, les interprétations sont devenues liberticides et ont empêché les femmes d'avoir toute leur liberté. Ce qui se passe aujourd'hui en Afghanistan n'est pas l'islam.
Merci Frida Darmani pour votre contribution dans ce dialogue des religion, sur la place de la femme dans les religions. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Eric. À bientôt. Au revoir.
À bientôt. Merci aussi à Marie-Jeanne Abega qui se trouve au Cameroun. Et à Shamsi du Rwanda qui ont également contribué dans cette émission. Eric Manilakis a été avec vous à la présentation, la mise en onde assurée par Joseph Morissa. Je vous souhaite une excellente soirée et à la prochaine.
Vous étiez à l'écoute.